Roger Petitfrère est un entrepreneur, une firme de pratique privée d'administrateur agréé qui offre entre autres des services d'accompagnement administratif. Roger Petitfrère est membre du Conseil national de transition CNT, issu de l'accord de Montana qui vise une sortie de crise durable en Haïti. Il est l'un des trois représentants de la diaspora sur 52 membres qui devront élire en second degré un président ou une présidente et un premier ou une première ministre de transition en Haïti. Bonjour, monsieur Petitfrère.
Bonjour.
Alors, on se posait la question, on veut savoir l'évolution des choses après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le point de la situation, parce qu'on a beaucoup d'informations, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Quelle est la situation à l'heure actuelle?
Bon, la situation à l'heure actuelle en Haïti, c'est toujours très difficile. On parle d'une crise extraordinaire. D'ailleurs, ce n'est pas souvent qu'on entend l'assassinat d'un président en fonction. Donc, et depuis bien avant cet assassinat, la crise haïtienne perdure depuis plusieurs années.
Oui.
Donc, au fond, tout ce que je peux dire au moment où on parle, la crise continue. Et c'est très difficile pour la population qui n'arrive même pas à rejoindre l'aide de vous.
Oui. Alors, donc, depuis l'assassinat, il y a eu beaucoup d'enquêtes à savoir qui a commis cet affreux crime, qu'on soit pour ou contre ce qu'il a fait, c'est un être humain. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de conclusion concluante à ce niveau-là.
Il n'y a pas beaucoup de conclusion concluante, effectivement. On entend par là de toutes sortes de rumeurs, d'accusations aussi. Donc, on parle de plein de choses, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui tienne debout. Donc, au niveau de l'assassinat, on ne sait pas c'est qui. On n'arrive pas non plus à monter correctement une bonne enquête. Puis on sait que, et en plus, ça ne dépend pas vraiment de la situation actuelle. En Haïti, donc la question de l'enquête continue, ça a toujours existé.
Oui.
Donc on est là.
Donc, on a entre autres une des pistes, ce serait sa carte rapprochée. Il y a une seconde piste, ce serait commandée par l'étranger. Ça va plutôt vers où? Commandée par l'étranger ou les deux?
Moi, pour vous dire vrai, je ne suis pas vraiment très bien placé pour savoir où est-ce qu'on est rendu, parce que j'écoute les nouvelles, je regarde les journaux, mais vraiment, c'est une situation. Moi, je suis beaucoup plus, je travaille beaucoup plus sur le plan de transition,
oui.
Donc mis de l'avant par l'accord du 30 août,
oui.
L'accord de Montana, qui a commencé. La rédaction a commencé depuis bien avant l'assassinat du président. Donc, moi, je suis beaucoup plus là-dessus. Et les autres choses, donc, je laisse ça à la justice pour faire son chemin,
Alors,
son travail.
Justement, on en parle de ce plan de transition. Qui siège là? Comment ça fonctionne? Quelles vont être les actions de ce plan de transition?
Bon, d'abord, le plan de transition... de l'accord du 30 août, dit l'accord de Montana, c'est un plan qui consiste à réunir le plus possible des membres de la société civile et du milieu politique. Donc, l'accord de Montana, quand on parle il y a un Conseil national de transition qui doit être composé de 52 membres. Les 52 membres, il y a 27 qui sont issus de la société civile et 25 qui doivent être issus du milieu politique. Et de ces 27 membres issus de la société civile, il y a 3 représentants de la diaspora haïtienne. Donc, moi, je fais partie de ces 3 représentants de la diaspora haïtienne. Et ce sont ces 52-là qui vont devoir élire en second degré un président ou une présidente de transition, un premier ministre ou une première ministre de transition.
Bon, et est-ce que les autres membres font tous partie de la diaspora ou les trois, si je comprends bien, il y en a trois de la diaspora, mais est-ce que c'est de la diaspora au Canada ou c'est la diaspora dans d'autres pays, dans les deux autres qui sont avec vous, par exemple?
Donc, nous sommes trois représentants de la diaspora. Il y a moi qui suis à Montréal. Il y a Samuel Collin qui vit en France, à Paris. Et il y a Dr. Roger Jean-Charles qui vit à Boston, aux États-Unis.
Ah,
Mais nous sommes
intéressant.
trois représentants de la diaspora pour couvrir toute la diaspora haïtienne.
Très intéressant. Et les autres membres, ils viennent du politique, mais est-ce qu'on connaît leur profil?
Non, parce qu'il y avait des commissions de désignation pour choisir ces membres-là. Donc, je sais qu'il y a les autres membres de la société civile, il y a des groupes de femmes, il y a des groupes de paysans, il y a des personnes de droits humains, etc. Donc, au fond, c'est ça, c'est surtout à ce niveau-là. Mais pour les partis politiques, c'est les partis politiques qui, le plus possible, qui veulent, qui participent à cette démarche-là de l'accord de Montana.
Donc, l'accord de Montana, c'est un exemple tout à fait nouveau. C'est aussi montrer que on réserve pas notre sort de notre pays à des grosses organisations mondiales, mais on se prend en main.
Effectivement, l'idée c'est d'une prise en main, toujours main dans la main avec la communauté internationale. Parce
Oui.
que vous savez que nous vivons dans un monde où tout est uni. Donc, mais on ne veut pas, l'accord de Montana cherche vraiment à ce que l'opinion internationale ne vienne pas imposer des solutions toutes faites.
C'est
Ils
facile.
veulent, oui, ils sont ouverts à des discussions, à des échanges. C'est pour ça qu'ils ont pris le temps de travailler un plan qui est un véritable contrat social pour sortir la population, pour sortir Haïti de sa crise.
Alors, quel est ce plan, les grandes lignes du plan que vous connaissez, parce que, bon, c'est depuis le mois d'août, qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Les grandes lignes du plan, c'est quand même un accord d'environ 17 pages où il y a des annexes, etc. Mais les grandes lignes du plan, au fond, c'est comment on va procéder pour restaurer les structures, les institutions qui sont manquantes. Comment on va faire d'abord, parce qu'au moment où l'on parle, il y a beaucoup d'insécurité. Donc, il faut préparer le terrain pour arriver à une société pacifique où les gens peuvent sortir pour voter. Au moment où l'on parle, les candidats ne seraient pas ce ne serait pas possible que les candidats fassent campagne et la population non plus ne pouvait pas recevoir, entendre et même aller voter. Donc c'est pour ça que c'est très important l'accord du Montana. C'est un accord qui décide, qui demande d'avoir un temps pour restaurer les institutions, pour essayer d'apaiser la population et l'insécurité aussi, essayer de traiter ce problème d'insécurité-là avant d'arriver à des élections libres, honnêtes et démocratiques.
Oui, parce qu'il y avait des élections qui étaient prévues et donc c'était absolument impossible. Et là, avec cet accord-là, est-ce que ça remet les élections à plus tard? Est-ce que vous arrivez justement à déjouer le politique pour remettre les élections en Haïti plus tard?
Comme c'est toujours mieux de prendre le temps qu'il faut, tout en sachant qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas rester éternellement dans ces choses-là, on va prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses pour arriver au plan et à des élections crédibles. Et c'est pour ça que nous, on dit que si ça doit prendre 9 mois ou 1 an, donc c'est mieux de le faire, comme ça tout le monde va être d'accord. Le président qui va sortir de ces élections-là, ou les élus de manière générale, on va dire, ben, écoute, on a pris le temps qu'il faut, on a écouté, on a voté, et vraiment, on veut vraiment partir, on cherche une solution pour une sortie de crise honorable et durable. On ne veut plus retourner dans ce genre de choses-là.
Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur des candidatures? C'est-à-dire que vous allez, bon, vous réunissez et vous devez élire un président, une présidente au second degré, mais est-ce que vous pouvez ou vous allez devoir vous prononcer sur des candidatures?
C'est sûr que c'est les 52 membres qui vont voter. C'est les 52 membres qui vont voter. Donc, chaque membre, un vote. Donc, nous, de la diaspora, moi, je vais avoir mon vote. Mm-hmm. La diaspora va avoir 3 votes sur les 52. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des balises. Par exemple, on dit clairement, il faut que la personne qui se porte candidate à la présidence ou pour la primature, il faut que cette personne-là ait patte blanche. Donc, il n'y a pas question d'avoir des personnes corrompues, par exemple. Mmh. Il faut que ce soit des gens j'ai de la misère à tout, parce que je dois peser mes mots, là.
Non, mais allez-y. Non, ne, avec moi, pesez pas vos mots. Allez-y. Allez-y.
Mais il faut que ce soit des personnes hors de tout soupçon. Mmh. Donc, il ne faut pas quelqu'un qui ait des accusations où la clameur publique a déjà quasiment donné toutes sortes de choses. Donc, des gens qui soient accusés ou des gens qui la clameur publique accuse. Et donc, il faut que ce soit des gens crédibles, des gens qui sont capables. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont apporter, ils vont déposer leur candidature. Et nous, par exemple, il faut, nous, même nous, là, les membres du CNT, on nous demande de présenter, par exemple, nos rapports d'impôts des 5 dernières années.
Bien.
Donc, pour voir c'est quoi nos sources de revenus.
Mais
où est-ce qu'on était. Donc, on soit capable de comparer avant, pendant et après, mm-hmm. donc pour pouvoir suivre des choses. Donc, mm-hmm. c'est la même formule ou la base de la formule qu'on va appliquer pour les candidatures.
Mmh. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens extrêmement intéressants qui voulaient se présenter en Haïti, mais il y a toujours le problème des deux passeports. Bon, les personnes qui viennent de la diaspora et qui sont canadiens, ben, ils ne peuvent pas parce qu'on leur demande d'avoir tout simplement un seul passeport. Donc, est-ce que ça, là-dessus, vous allez vous pencher? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très intéressants et qui, pour une raison ou une autre, ont dû aller vivre à l'extérieur, mais ils sont attachés à leur pays. Est-ce que vous allez vous pencher sur cette question-là pour les candidatures à la présidence?
Au moment où l'on parle, dans tous les rapports que j'ai eus avec les membres de la diaspora, cette question se pose.
Voilà.
Est-ce qu'on va reconnaître la notion de la double citoyenneté?
Mm-hmm.
Au moment où l'on parle, je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. La Constitution de 1987 ne l'avait pas acceptée.
Mm-hmm.
Mais c'est notre défi.
Mm-hmm.
C'est notre défi. Donc, oui. Moi, en tant que représentant de la diaspora, un des 3 représentants de la diaspora, nous avons déjà un consensus là-dessus. Il faut aller travailler pour voir dans quelle mesure on peut arriver à faire en sorte que les gens de la diaspora puissent voter mm-hmm. et avoir le droit de supporter les candidats.
Voilà.
Mais on comprend que ce n'est pas facile parce que il faut pas faire ça dans la confrontation. Il faut aller chercher la concertation avec nos autres collègues, avec les gens aussi qui sont sur place au pays, pour leur expliquer le bienfait.
Mm-hmm.
C'est quoi les avantages de faire participer de manière intégrale les membres de la diaspora.
Mm-hmm. Oui.
Donc, de notre côté, on a un travail à faire et on va leur inviter aussi à faire leur travail de leur côté. Et moi, j'ai confiance qu'on va pouvoir, on va finir par se rencontrer à quelque part.
Est-ce qu'il y a des candidates, des femmes que vous voyez sans dévoiler le nom? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont intéressées au poste?
Au moment où l'on parle, tout est ouvert. On sait qu'il y a des femmes de grande qualité en Haïti. Je prends l'exemple de l'accord de Montana. Et le porte-parole, c'est Madame Magali Kobo-Denis,
mm-hmm.
qui est une femme de grande qualité et qui met de l'avant avait eu sa première femme présidente du pays. Voilà. Donc, au moment où l'on parle, tout est ouvert. Donc, nous, on prône la légalité des hommes et des femmes. Et on n'a pas de doute là-dessus. Donc, tout est ouvert. Et la présidente, ce sera une présidente ou un président, ce sera une première ministre ou un premier ministre. On est ouvert à ça.
Alors, ça doit être extrêmement intéressant, vos rencontres, Roger Petitfrère. Est-ce que vous avez plusieurs, une petite curiosité comme ça? Vous êtes 52 autour de la table. Est-ce que vous avez plusieurs rencontres? Comment ça fonctionne, toutes vos rencontres?
Les rencontres sont déjà commencées, effectivement. Donc, il y a des séances de travail. On est en train de peaufiner les règlements de fonctionnement, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on vient de commencer les rencontres du CNT, KNT en créole. Donc, mais ça passe de bon train. Et si la tendance se maintient, il y aura une annonce bientôt pour l'installation du CNT.
Très bien. Alors, vous n'hésiterez pas à nous contacter à Info Centre-Ville si jamais vous avez des nouvelles et à nous donner en exclusivité. Est-ce que vous êtes donné une date pour nommer une présidente et un président de transition?
Au moment où l'on parle, il n'y a pas de date. Okay. Mais nous, de la diaspora, on travaille aussi à mettre sur pied un genre de bureau virtuel pour que nos compatriotes de partout à travers le monde puissent nous contacter pour nous donner des idées, de nous donner leurs doléances pour qu'on puisse amener tout ça au CNT et au Conseil national de transition.
Est-ce qu'on peut vous envoyer aussi des candidatures? Est-ce que les gens qui écoutent en ce moment et qui ont le profil que vous recherchez pourraient éventuellement vous contacter pour vous proposer une candidature?
Au moment où l'on parle, non, parce que les critères ne sont pas tout à fait définis. Mm-hmm. On travaille là-dessus. Et puis, comme je viens de vous le dire, on est en train de travailler pour mettre sur pied un bureau virtuel qui sera le point de contact pour nous, les trois représentants de la diaspora. Ce sera bientôt.
Alors, un grand merci. Donc, vous êtes un des trois qui représente la diaspora sur les 52 membres. Et on parlait aujourd'hui de l'accord de Montana, un accord très important pour la suite des choses pour Haïti. Merci beaucoup, Roger Petitfrère.
Merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour saluer vos auditeurs et vos auditrices. Donc, moi, je suis un fan de la radio Centre-Ville, un membre de la radio. Donc, ça a été un très grand plaisir pour moi de faire cette entrevue avec vous.
Plaisir partagé. Au revoir.